Des matins, Stéphane Guégan, conservateur au musée d'Orsay, historien, critique d'art, biographe. Il est celui à qui l'on doit cette grande et belle exposition Manet au musée d'Orsay et à qui l'on doit également, dans le même temps, chez Gallimard, biographie, un Théophile Gautier, qui est peut-être, Stéphane Guégan, le livre que Théophile Gautier aurait, qui s'est voulu finir d'écrire sur son histoire du romantisme. C'est un peu comme cela que vous aviez en tête de faire cette biographie. Notre histoire du romantisme.
C'est assez flatteur. En tout cas, l'histoire d'un autre romantisme.
Parce que c'est Théophile Gautier, mais ce n'est pas que Théophile Gautier, il y a tout le 19e siècle qui défile.
Mon éditeur, que je salue, qui est un ami, Georges Diébert, m'avait demandé une fresque, si j'ose dire, en toute humilité. Du moins, en tout cas, brosser le paysage. Ne pas isoler Gautier du reste, à la fois la peinture, la littérature, mais la politique, mais encore le journalisme. Et puis surtout, insister sur la différence. Que le romantisme est une famille qui n'est pas très unie. Il y a des romantismes et il fallait, au fond, caractériser celui propre à Gautier.
Voilà, donc aujourd'hui, on pourrait dire presque main dans la main de chaque côté avec Théophile Gautier, Édouard Manet. Vous êtes notre invité jusqu'à 9h, Stéphane Guégan.
Du lundi au vendredi à 13h30 sur France Culture, les pieds sur terre. Le 8 mai 2011, Laurent Wauquiez dénonçait les dérives de l'assistanat comme le cancer de la société française. Des allocataires du RSA répondent aux attaques du ministre. Les pieds sur terre, ce vendredi à 13h30 sur France Culture.
Deuxième partie des matins, donc, avec vous, Stéphane Guégan, et autour de la table le vendredi, Daniel Salnave et bien sûr Alain Gérard Slama. Bonjour Alain Gérard.
Bonjour cher Marc.
Où je vous vois raturé, vous êtes comme le peintre qui remet la touche sur la toile et cherche la bonne lumière. Avec cette question, qu'est-ce qu'être moderne ?
Absolument. Qu'est-ce qu'être moderne ? J'ai pas prétention d'avoir lu en une nuit, cher Stéphane Guégan, les 700 pages de la biographie que vous avez consacrée à Théophile Gautier. Mais j'en ai lu assez pour être convaincu que ce travail monumental est passionnant à lire.
Ce sera le livre de l'été, sur la plage, on peut le prendre.
Oui, Gautier, oui, peut-être, l'exhumer, le sortir du sable, en tout cas, ou dans lequel il avait tendance à être un peu enfoncé. Et ce sujet, c'est la question de la modernité. Et la date classique de la naissance de la modernité, du moderne, c'est le texte fameux des salons de Baudelaire, dont la date 1863 correspond au scandale provoqué par le déjeuner sur l'herbe de Manet, dont l'exposition d'ailleurs s'achève
dans 19 jours du jour, le 17 juillet. Jours-ci.
Mais bien entendu, l'épithète moderne est bien antérieure. Elle remonte à l'Antiquité. Les poètes contemporains de Catulle, au temps de César, dans la seconde moitié du 1er siècle avant notre ère, étaient déjà appelés les néo-théroi. Ceux qui recherchent, et ils s'appelaient eux-mêmes d'ailleurs, ceux qui recherchent le nouveau. Et comme le nouveau est par définition insaisissable, puisqu'il est la précarité même, le moderne ne peut être saisi en lui-même. Baudelaire le voit fugitif, hanté par la mode, habité par la vitesse. Se disant, il critique la modernité de son temps, mais il l'illustre en même temps. Être moderne, d'une certaine façon, c'est se situer dans une contestation permanente. C'est déconstruire en permanence, comme ne dirait pas Derrida, ce que l'on tente soi-même d'édifier. Non pas destroam et edificabo, mais edificabo et destroam. C'est donc saisir d'un côté le passé dans ce qu'il a d'essentiel, au moment où il disparaît, pour lui donner une nouvelle vie dans le futur. Alors, je ne crois pas que le fait d'être moderne aujourd'hui ait beaucoup modifié cette définition de la modernité comme manière d'être. Être moderne, c'est s'opposer à l'ancien, à la tradition, à l'archaïsme, c'est s'opposer aussi aux valeurs dominantes de son temps, comme Gautier l'a fait, en se passionnant pour le rêve oriental. L'Orient de Gautier, que Stéphane Guégan nous donne vraiment à toucher presque du doigt, notamment à travers l'Algérie de la conquête, est un monde neuf, que l'homme occidental découvre, mais au moment où il a le sentiment que cette découverte va le corrompre. Et en contrepoint de sa pièce « La Juive de Constantine », qui fut abondamment sifflée, Gautier écrit « Je plains le courage malheureux de ces pauvres Arabes sur qui pèse la fatalité des races destinées à disparaître ». Et notre biographe de préciser que la pièce de Gautier séduit aujourd'hui par sa bigarrure ethnique sous tension. Peut-être y a-t-il là une clé pour opposer la modernité selon Manet et la modernité selon Monet. Monet cherche à fixer l'impression fugitive des formes et des couleurs et à les éterniser en quelque sorte sur la toile. Manet s'attache à rendre sensible dans l'éclat des formes et des chairs ce qu'elles ont de corruptible et de précaire. Être moderne aujourd'hui comme hier, c'est privilégier dans la perception du présent la conscience de la crise. Alors, dans l'appréhension de notre modernité, un trait essentiel pourtant a changé, être moderne du temps de Gautier, qui avait lui-même un petit train de retard, c'était se sentir partie prenante d'une génération. Une génération se définissait par un événement marquant. Par exemple, la première d'Hernani. En outre temps où l'histoire s'accélère, les événements se précipitent à un rythme tel, il y a tellement de premières d'Hernani chaque jour, qu'il devient de plus en plus difficile de définir l'événement de référence qui laisse sur une tranche d'âge une marque durable. Et les repères, les systèmes de référence du même coup s'individualisent. Et chacun aujourd'hui a le sien. Et le moderne ne s'incarne plus. Il est devenu un concept lui-même modernisé sous ce nom bizarre, barbare, mais qui correspond en effet à certaines réalités de post-moderne.
Stéphane Guégan, réaction, commentaire, objection à la chronique d'Alain Gérard Savin.
Magnifique. Je retiens plusieurs choses, bien sûr. La première, c'est la définition du moderne par la manière d'être. Je pense à la phrase de Balzac, j'appartiens à la position qui s'appelle la vie. Donc toujours chercher à renouveler les codes. Il y a aussi, chez les romantiques et chez Manet, derrière eux, la nécessité de caractériser l'époque, dans la mesure même où cette époque devient difficile à déchiffrer, difficile à fixer. Qu'est-ce qui fait le propre, au fond, de la société post-révolutionnaire dans les années 1830-1840 bien sûr, du point de vue de l'esthétique, la difficulté même de faire entrer les formes, les idées du monde moderne dans une esthétique qui les rejette. Jusque-là. Cette société, plus exactement, je parle de société, ces cénacles romantiques, Manet et les siens, affrontent cette question. Comment peut-on faire de la bonne peinture et de la grande peinture, j'entends dans le grand format, à partir de sujets qui semblent prosaïques, de sujets qui semblent lestés justement par la vulgarité des temps. Et Gautier, qui passe aujourd'hui pour l'inventeur du Parnasse, l'inventeur d'une poésie étrangère à son temps, est celui qui, en 1858, fixe aussi, en rendant hommage à Balzac, qui est le grand homme, au fond, pour toute cette génération, le grand modèle, et fixe cette idée. Nous autres romantiques, nous avons peut-être eu du mal, parfois, à regarder frontalement notre époque et à la faire rentrer dans ses habits, dans ses caractéristiques, dans l'art d'aujourd'hui.
Il semble que vous faites un distinguo qui s'applique aux deux personnages, et Théophile Gautier, où vous l'écrivez noir sur blanc, et également, cela dit, pour Édouard Manet, dans la façon dont vous avez de composer l'exposition et dans ce qu'on peut en voir dans le catalogue, Stéphane Guégan. C'est l'idée que ce sont des précurseurs. Par exemple, il y a, et c'est un des exemples, un des détails, entre autres, dont foisonne votre biographie de Théophile Gautier, l'amour de la langue, dites-vous, de Gautier, fait de lui un précurseur, un inventeur du moderne. Et vous dites un inventeur du moderne, pas un moderniste.
Oui.
Et idem pour Manet.
Bien sûr.
Quelle est la nuance que vous faites pour caractériser ces débats entre moderne et moderniste, être moderniste.
Oui, elle est très simple, elle appartient à l'histoire culturelle. C'est-à-dire que longtemps, le regard sur le 19e siècle a été celui du 20e siècle, et qui est donc en partie anachronique, pour des raisons, je dirais, presque naturelles. Il s'agissait donc de refaire l'inventaire, de retrouver une certaine fraîcheur, sans naïveté. Il n'est pas question d'oublier le Bataille, Malraux, Foucault, que sais-je. Il s'agissait de...
Qui ont célébré Manet, par exemple.
Voilà, il s'agissait de dégager, au fond... Gautier, Manet, d'une vision qui s'est stérilisée. Parce que je pense que on préfère, et notamment en histoire de l'art, considérer que la peinture n'est que peinture.
Théophile Gautier, cela dit, nous a un peu induit en erreur quand il a définit son expression l'art pour l'art.
Oui.
Mais vous déconstruisez ça complètement. Oui. Vous dites attention, quand il dit l'art pour l'art, il ne dit pas justement que l'art doit être totalement hors du temps.
Oui.
C'est l'inverse.
Vous avez raison. Pourquoi
est-ce qu'on l'a mal interprété?
Ce qu'il signifie avant tout, c'est que l'art ne doit pas se replier uniquement sur ses formes, que l'art reste un langage, mais qu'il n'a pas à se soumettre. L'art pour l'art, c'est un art insoumis, c'est un art irréductible, c'est un art qui ne cherche pas à servir une cause extérieure à la sienne. Ce qui ne veut pas dire que cet art-là, qu'il s'agisse de poésie ou de peinture, ne signifie plus.
Oui, vous écrivez, Stéphane Guégan, Gautier concilier une attention réalité sociale et la défense pugnace de l'autonomie artistique. Oui. Concernant la guerre franco-prusse, par exemple, et la période durant laquelle Paris était assiégée, Gautier écrit sur la situation des Parisiens, et vous dites, à sa façon, l'écrivain avait passé l'uniforme, l'art pour l'art ne fut jamais si synonyme d'indifférence.
Oui.
On s'est trompé sur cette formule.
On s'est trompé dès l'époque de Gautier, qu'on a pris pour un indifférent, quelqu'un qui se serait retiré conformément à l'image canonique du poète romantique. C'est tout le contraire. Non seulement, comme je l'ai dit, il fait rentrer son époque, mais il fait rentrer toute l'époque. Il suffit de regarder le premier recueil de poésie. On y trouve la société de la monarchie de Juillet dans tous ses aspects.
Voilà.
Mais pour lui... Il n'y a pas lieu de prêcher une doctrine pour autant. Il n'y a pas lieu d'imposer une vision au lecteur ou au spectateur. Il y a lieu de mettre en place, au fond, les choses et de laisser, comme l'aurait dit Duchamp d'ailleurs, au spectateur le soin de juger par lui-même.
Alors la société, l'histoire, les événements du temps sont présents et chez Théophile Gautier et chez Édouard Manet, l'un par ses engagements on va dire politiques, sa façon de suivre tous les événements du 19e siècle, 1830, 1848, et l'autre par la peinture des gens qu'il veut portraiturer, qu'il représente avec ces fameuses origines sociales diverses et variées. C'est entre autres justement le rapport aux politiques, au temps, qui vous a particulièrement intéressé, Daniel Sennard.
Oui, parce que je vais le reprendre en entier, parce que c'est absolument passionnant, mais évidemment c'est un très gros livre. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que vous revenez sur le 19e siècle, à partir du moment où l'ombre énorme portée par le 20e siècle, vous l'écartez. Et vous le mettez dans cette postérité post-révolutionnaire, qui est ce 19e siècle. Et ce qui est très très frappant dans votre livre, c'est que vous interrogez ces variantes, depuis Victor Hugo, passant de pair de France à républicain, disant le proscrit pair de France, le proscrit te fait la leçon quand même, il écrit ça en 71, c'est quand même en 58 ou 9, juste avant 60. Et chez Théophile Gautier, vous montrez bien, et votre définition de l'art pour l'art est formidable, parce qu'elle nous aide à comprendre que nous l'avons vu dans la logique de l'engagement du 20e siècle.
Oui.
Et on opposait donc l'engagement et l'art pour l'art. Ouais. Donc, peut-être pour nos auditeurs, comme on dit, vous pourriez nous dire comment Gautier traverse ces épisodes qui sont tellement marquants, qui sont de la monarchie de Juillet, les épisodes internes à la monarchie de Juillet, puis les journées de Juillet, puis 48, puis 60. Il a traversé tout cela et il meurt très peu de temps
après.
Vous pourriez nous éclairer sur le chemin qu'il a connu. On connaît mieux ceux de Victor Hugo ou de Baudelaire, par exemple, qui meurent plus jeunes.
Stéphane Guégan.
Parce que précisément, eux, en tout cas dans le cas de Victor Hugo, très vite passent au militantisme, dans le cas de Victor Hugo, d'ailleurs, avec plus lentement qu'on ne le croit, il est devenu républicain vraiment sur le tard. Hein. C'est presque, je dirais, le coup d'État qui le fait républicain. En 1848, il est pour une régence. Il ne faut pas l'oublier. Ceci dit, dans le cas de Gautier, il a 20 ans en 1830, globalement. 20 ans en 1830, vous imaginez. Donc, première révolution, Hernani, quelques mois plus tard, les barricades, légère déception. Il vient d'une famille...
Il a 19 ans.
Oui, il vient d'une famille, je dirais, marquée par... j'ai envie de dire le monarchisme éclairé. Vous savez, c'est très intéressant de voir d'ailleurs les liens entre la famille Gautier et le clientélisme d'Ancien Régime, les Montesquieu, par exemple. Montesquieu a été... L'abbé de Montesquieu, qui a été ministre de Louis XVIII, un des rédacteurs de la Charte, qui est donc un monarque libéral, un monarchiste libéral, a été un peu l'inventeur de Gautier, puisqu'il a vu en ce jeune garçon à la fois un dessinateur, un poète. Donc il faut imaginer ces liens, déjà, qui sont à mon avis structurants pour un jeune garçon. Et il va évoluer vers une sorte de libéralisme plus au centre. Je pense que Émile de Girardin ou Victor Victor Hugo, qui ont eu autant d'importance dans le destin de Gautier, aurait dit qu'ils étaient des conservateurs progressistes. J'adore cette formule. Elle convient assez bien à Gautier, ce qui d'ailleurs lui permet, au fond, ensuite de s'adapter à tous les régimes. En 48, par exemple, pendant la Seconde République, il soutient fermement la politique culturelle de la Nouvelle République. Et sous le Second Empire, alors ça c'était un épisode difficile sans doute à maîtriser dans mon livre, parce que on bute là sur un certain nombre de poncifs concernant le Second Empire et Gautier, eh bien il agit en agent double. C'est-à-dire qu'il voit bien d'ailleurs la complexité du régime. Je rappelle quand même que Napoléon III, ce n'est pas un dictateur à la mode du XXe siècle. Et il soutient à distance, par exemple, bien Victor Hugo. En tout cas, le clan Hugo qui reste à Paris. Donc ça veut dire que ce jeune homme qui vient d'un milieu plutôt monarchiste se fait plus libéral autour de 1830, au contact de Nerval, de Borel, traverse la monarchie de Juillet dans le journal le plus en vue de l'époque, qui est la presse de Girardin, qui est tout sauf un journal conservateur. Et puis en 40 ensuite, il est prêt. Alors bien sûr, il n'est pas pour le retour de la terreur, comme il le dit. Il n'est pas question de rétablir 1793. Et sous le Second Empire, il est flatté par d'abord, je dirais, le régime en place. Il se rapproche de la princesse Mathilde, un peu du pouvoir. Et il le traverse non pas, je dirais, en écrivain complaisant, mais en poète flatté.
Voilà. Et on dira de lui, du coup, qu'il a tout de même, on va dire quoi, baissé en intensité politique. Considère qu'il y a comme une sorte après d'éloignement, une sorte de...
Je dirais que la politique n'a jamais été une véritable obsession chez lui.
Il en a vu les désillusions très vite, il en a vu la fausse utopie très vite aussi, quand même.
Je dirais que l'art et les femmes ont plus compté dans sa vie que la politique. C'est un hédoniste. C'est un homme qui cherche à se maintenir au cœur, au fond de la création de son époque, qui ouvre toutes ses antennes dans tous les domaines. D'où la, je dirais, hélas, l'épaisseur de ce livre. Tous les domaines. Mais la politique le rejoint. C'est ça que j'ai trouvé intéressant et que j'ai cherché à signaler. C'est que, quand bien même, vous savez, j'imagine que Sartre l'aurait dit comme ça, mais quand bien même vous voulez repousser la politique, elle vous agrippe. Mais elle s'agrippe à vous.
Vous laissez entendre qu'il a pu avoir une forme, alors peut-être que je me trompe, mais de désillusion ou de déception, ou en tout cas de lucidité. Vous dites que, quand même, il devine qu'après les printemps, après les révolutions, il y a cette forme de contre-révolution et l'avènement de la bourgeoisie. Qu'il devine, au fond, qu'il y a quelque chose comme la consécration de l'argent et de valeurs bourgeoises dont il n'est pas finalement si proche que ça, lui.
Oui, effectivement, il y a cette idée qui est juste, à mains égards, d'un romantisme qui s'oppose à l'embourgeoisement de la société française. Mais plus qu'à l'embourgeoisement, je dirais, est-ce qu'elle signifie en termes culturels Alors, avec chez Gautier et d'autres, d'ailleurs, une tendance à caricaturer l'ennemi.
Forcer le trait, oui. C'est un polémiste. Il faut rappeler qu'il a écrit à la presse, au Figaro, à la Caricature, à la Revue de Paris, à la Revue des Deux Mondes. Il a une activité très importante. C'est
des milliers d'articles et qu'on redécouvre aujourd'hui. C'est tout
et
un
qui sont à l'époque très très suivis. C'est une figure.
C'est-à-dire que c'est là où il exerce une sorte de pédagogie éclairée. Imaginez aujourd'hui que les tenants de la modernité, au lieu de pratiquer une sorte d'obscurantisme, se mettent à clarifier leurs propos dans des journaux à grande diffusion.
Il aura des influences très grandes, comme par exemple au hasard, mais il critiquera par exemple de comment est fait le Louvre, de l'époque. Il
Bien
dira
sûr.
Que ça
ne
va pas du tout, que c'est ringard, enfin, il ne dira pas comme ça, il dira mieux. Et ça va avoir une influence réelle sur la politique des arts, par exemple.
Voilà, exactement. Et je dirais que là, s'il y a une politique de Gautier, elle s'exerce dans le milieu artistique et culturel, et de façon très ferme, jusqu'au bout.
Très avant Malraux, c'est l'élitisme pour tous.
Oui, et il n'y a pas de fléchissement, je dirais. On a tendance à croire que Gautier s'est un peu endormi dans la fête impériale. Il n'y a pas de fléchissement. Jusqu'au bout, il est en éveil. Jusqu'au bout, il cherche. Et c'est la raison pour laquelle il rejoint Manet. Et 10 ans plus tôt, pour laquelle il s'intéresse à Courbet. En 1850, il est un des seuls à dire et à s'étonner qu'on n'ait pas remis une médaille à Courbet. C'est-à-dire l'incarnation même des rouges en politique et en art. Là, il y a une vraie convergence. Il l'écrit dans la presse de Girardin. Pourquoi ne pas avoir remis une médaille à Courbet au moment où il expose son enterrement à Ornans ? C'est lui la vraie sensation du salon. Je ne suis peut-être pas, moi, Gautier, capable de tout vous dire cette peinture, mais c'est lui la sensation, c'est lui la nouveauté. Donc ça veut dire qu'il y a cette fidélité à l'idée que la jeunesse n'a jamais complètement tort.
Il y a peut-être un intermède d'ailleurs entre lui et Manet, c'est Goya.
C'est Goya, alors, c'est l'Espagne.
Et voilà, parce que lui, quand même, il est un homme du Sud-Ouest.
Vous avez raison.
Et il y a une autre question que je voulais vous poser, c'est que... c'est sa postérité. Enfin, Sainte-Beuve regrette qu'il n'ait pas consacré l'œuvre qu'il aurait dû faire et qu'il ait perdu son temps à écrire dans les journaux.
Ah, oui, oui.
Bon,
oui.
Hein, ou à ce, s'il y avait eu la radio à l'époque, il se serait gaspillé de la même façon derrière.
Il aurait fait
des micros, ça aurait été, ça aurait été
à 8h15, on aurait eu la chronique de Théophile Gautier.
Ça aurait été Marc. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on retrouve quand même une imprégnation chez Verlaine. Chez Rimbaud, le bateau ivre, enfin tout ça, il y a une influence tout à fait considérable que vous mettez en évidence et dont je ne soupçonnais pas la
oui. Vous avez raison d'y insister parce qu'on peut dire que dès la mort de Gautier, qui correspond donc avec à l'instauration d'un nouveau régime, et surtout à partir des années 1880, eh bien, j'ai envie de dire, l'institution littéraire, à commencer par l'université, rejette.
Ouais. Gautier meurt en 1872.
Voilà, rejette un homme qui incarnait un romantisme immoral, un homme qui s'était compromis sous le Second Empire, un homme qui aurait inventé une littérature sans âme et sans cœur, froide, abstraite, parnassienne. Bref, et on peut dire que le rejet de Gautier va perdurer jusque dans les années 1960. En France, parce qu'ailleurs, quand vous regardez du côté de l'Angleterre, Oscar Wilde, Ezra Pound, T.S. Eliot, Swinburne, et cette culture de la décadence britannique, qui va d'ailleurs se transmettre aux États-Unis, Henry James, dont on a parlé, par exemple, eh bien là, le souvenir et l'impulsion donnée par Gautier à la littérature de son temps s'est maintenu et a continué à fructifier. Donc, ça veut dire que c'est une affaire très française, le rejet de Gautier. On pourrait même y consacrer toute une émission. Hein. C'est très intéressant de voir pourquoi
en même temps,
on l'a oublié et pourquoi il revient aujourd'hui.
C'était bien la moindre des choses que les anglo-saxons le reconnaissent. Lui qui avait découvert la littérature anglo-saxonne bien avant de très nombreux Français. Mais dans ce sens-là, dans la famille des Baudelaire, hein,
oui,
par
oui,
exemple.
Oui, 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 oui.
Mais Henry James, par exemple, il écrivait exactement la même chose que vous, Stéphane Guégan, de Théophile Gautier. Il lui reconnaissait un talent particulier pour l'écriture picturale. Encore le journaliste, l'écriture. Écrivain, peintre.
Oui, faire voir. Baudelaire dit que Gautier a inventé la littérature voyante plus au sens de James qu'au sens de Rimbaud, d'ailleurs, c'est-à-dire faire voir. Faire fusionner la littérature et la peinture.
Et Sainte-Beuve, que vous citez également, Stéphane Guégan, qui disait « Gautier excelle à montrer tout ce dont il parle, tant sa plume est fidèle à un pinceau. »
Oui, ah, oui. C'est-à-dire que c'est amusant parce que Gautier, comme Manet, appartiennent aussi à une sorte de révolution médiatique. On est entre le monde de l'eau-fort, de l'estampe, et le monde de la photographie, bientôt celle du cinéma. Ils ont senti ça. Et Gautier part en Espagne en 1840 avec un ami photographe. La photographie a un an d'existence. Et c'est ça la modernité aussi de ces jeunes gens. C'est-à-dire que les choses vont changer, il le pressent. En 40, les choses ont changé. La photographie va avoir un impact sur la peinture, mais aussi sur l'écriture. Pourquoi décrire quelque chose que la photographie va pouvoir montrer ? Et il y a une rivalité. Et le génie de Gautier, c'est d'avoir importé, d'une certaine manière, cette capacité à décrire, à montrer la chose dans la littérature, c'est-à-dire dans l'art. Le moins voyant.
Dites, il y a donc la politique, le monde parisien, l'histoire en train de se faire, mais il y a un point commun. Alors là, évidemment, sur lequel on peut sauter à pieds joints, tout de même, entre Gautier et Édouard Manet, c'est l'amour des femmes, on pourrait même dire du sexe.
Oui. Hein ? Oui, c'est-à-dire que ce qui fait scandale dans les premier recueil de Gautier, c'est effectivement l'érotisme. On le dit, c'est immoral, c'est érotique, c'est scabreux, c'est inconvenant. C'est le comble de l'inconvenance, même, dit-on, de Gautier dans les années 1830. Certains de ses livres sont à l'index, à Rome, et le resteront. On en parlait hors micro. Il est évident que le scandale de Manet le bain, le déjeuner sur l'herbe avec Olympia en 1865, et jusqu'à la fin d'ailleurs, hein, jusqu'à la fin, n'oublions pas, tient aussi à la capacité qu'avaient ces hommes à déplacer les limites de l'interdit. Ah, ça, c'est une chose qui nous ravit aujourd'hui.
Le DG sur l'herbe, c'est une manière de... C'est un pique-nique à la Poussin, sauf qu'il y a vraiment une femme à poil, voilà, qui est sans ambiguïté au milieu.
L'une est nue et l'autre est en déshabillé avec la main posée sur le sexe. Ouais. Je rappelle que le premier titre de ce tableau...
Et les hommes ont l'air de parler assez décontractés, sans que ça gêne grand monde.
Ouais, rappelez-vous que le premier titre de ce tableau, c'est le bain. Ce qui veut dire qu'en 1863, le public est d'abord invité à regarder les femmes dans ce tableau. Manet, dans l'intimité, parlait d'une partie carrée. C'est amusant parce que Gautier a écrit un roman qui s'appelle La partie carrée, plus tard.
Non, mais ça n'a rien à voir avec... Ça n'en finit pas, les correspondances entre Gautier et Manet.
Mais vous avez raison de dire que la question du sexe est centrale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs...
Non, parce que je vous dis ça, parce qu'elle est centrale, parce que c'est vrai qu'on vous a senti votre agacement à ce qu'on ait fait trop longtemps et trop souvent, de façon comme cela, un peu édulcorée, qu'au fond, voilà, Manet était le père de l'impressionnisme, que ce qui était beau dans Manet, c'était la touche orientale, c'était comment... Ah, il pouvait lui aussi faire des cerisiers comme les Japonais. Bon, oui, d'accord, mais enfin, c'est un peu...
C'est pas suffisant. Le premier à secouer un peu ces conventions, c'est Bataille, en 1955, livre que Picasso a lu, et sur lequel d'ailleurs revient Solers dans le catalogue Manet, parce que Solers y voit justement une ligne de fracture qui vient de Baudelaire, qui passe par Bataille et qui arrive, si j'ose dire, à lui-même. Il y a une vision de Manet, édulcorée, asexuée, qui est en partie celle de Malraux, il faut le reconnaître, en partie celle des modernistes du XXe siècle. Il fallait simplement l'oublier, s'en affranchir pour rappeler, je dirais, dans quel cadre non seulement un Gautier, un Manet ont agi, mais ont été reçus. Là, il s'agit de faire de l'histoire.
Il est parfaitement
au sens
conscient de ce qu'il fait Manet.
Et la leçon, il n'y a pas une femme nue et
ça fait scandale. Non, il sait ce qu'il fait.
On est dans le monde de la culture de masse. C'est-à-dire que Gautier est un poète parmi d'autres. Il faut très vite se faire remarquer, très vite arriver à l'attention comme ça des prescripteurs, des journalistes. Même chose pour Manet. Il y a effectivement une dose de provocation, très conscient, très contrôlé.
Il en éprouvera tout de même de l'amertume et de la tristesse de ces fameux refus réguliers Manet à cause de, ce déjeuner sur l'herbe.
Oui, parce qu'il a, il est obsédé par l'idée de rester au cœur de l'espace public.
De la reconnaissance quand même.
Et je dirais même, c'est un paradoxe, il faut peut-être y insister, en bon républicain. Pourquoi il décline l'invitation des impressionnistes en 1974? Parce qu'il a déjà un marchand, quelques collectionneurs, mais c'est parce que, avant tout, c'est l'espace public qui l'intéresse. Et les républicains en 1974 le disent. Il n'y a pas lieu pour vous de rejoindre les nouveaux insurgés qui font bande à part. Il faut rester là, au cœur de l'attention et chercher à conquérir contre vents et marées. Votre public, le public qui vous attend.
Alors, vous ne reniez pas, cela dit, pour autant, ce qui peut faire aussi l'extase que l'on peut avoir devant la peinture de Manet, pas seulement parce qu'il y a des femmes nues, mais devant quoi? Un œillet, un citron? D'où ça vient, cette histoire du citron?
C'est difficile, c'est un des titres d'une pièce chez vous. Oui, la Gérard Slamet le rappelait, l'Espagne aime bien ce type de nature morte très dépouillée, peut-être. Simplement, sa capacité à faire... flèche de tout bois. C'est aussi ça, le romantisme, c'est de prendre les choses ordinaires et de les faire signifier. Hein, contre, j'ai envie de dire, les préventions classiques. Il n'y a plus de sujet noble. La noblesse, la poésie, c'est ce que vous apportez dans le regard que vous posez sur les choses. Et puis, dans l'exposition, nous confrontons ces natures mortes très dépouillées avec les premières natures mortes. C'est la fin aussi. C'est cette façon dont la maladie, la syphilis, qui est en train d'emporter Manet, le pousse vers les extrêmes au début des années 80.
Less is more.
Less is more.
Mais ça va aussi avec Théophile Gautier.
Less is more avec un point d'interrogation, vous avez vu. Là encore, j'essaie de contourner la formule célèbre des architectes les plus puristes du XXe siècle. Parce qu'au fond, il faut tout de même aussi rappeler que pour Manet, Olympia n'a pas la même signification que l'asperge, le déjeuner sur l'herbe, que le citron. Il y a une ambition et même un défi dans les grands tableaux supérieur, bien sûr, à ce que constituaient ces natures mortes. Il fallait aussi le rappeler contre une vision moderniste, une fois de plus, qui met tout sur le même plan.
Oui, ou un peu angélique.
Un peu angélique. Oui, oui. Et en tout cas...
Pour lui, ça n'est pas sur le même plan.
En tout cas, une vision amnésique.
Oui. Vous auriez voulu voir l'exposition organisée par Manet en 1880? Vous n'y arriverez jamais, vous savez, Stéphanie. À moins d'être dans un film film de Woody Allen.
Non, j'ai pas ce genre de mélancolie.
Vous l'écrivez.
Ah bon, j'écris.
Vous l'écrivez sur le catalogue. J'aurais bien. Ah ben, vous plaisantez ou quoi? Vous écrivez. J'aurais bien aimé voir l'exposition d'Edouard Manet en 1880.
Ah si, oui, si. Ah oui, bien sûr. Non, mais je redis pas ce que j'écris. Non, vous avez raison. Dans la mesure où vous parliez de Manet, des femmes.
Je vais la retrouver, la citation.
C'est amusant de voir la façon dont on parle de Manet. Je vous assure que c'est un cas unique dans l'histoire de la peinture du 19e siècle. En 1880, effectivement, chez Charpentier, sur les boulevards, l'éditeur de Zola, il possédait une galerie, la galerie de la vie moderne, qui renvoie donc au texte canonique de Baudelaire. Donc voilà une galerie qui s'ouvre à Baudelaire, à Manet. Il y expose 15 tableaux, 10 pastels. Et là, ce sont pratiquement que des femmes. Donc le public est surpris. Et on dit de Manet qu'il est un des rares artistes à se sentir à l'aise dans la société des femmes. Je vous assure qu'on dit rarement ça des peintres du 19e siècle.
Oui, et puis qu'aujourd'hui, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, vous écrivez bien, pardon, pour être précis. Voilà, un regret pour finir, écrit Stéphane Guégan dans le catalogue, celui de ne pas avoir pu reconstituer autant qu'il était possible l'exposition que Manet organise à lui-même en 1880.
Oui. Bon, voilà. Oui, vous avez raison. Bon, alors, reconstituer et pas voir, j'avais pas... Mais ceci dit, j'aurais aimé me mêler au tout Paris qui s'est précipité, parce que une chose aussi qu'il fallait, à mon avis, rappeler au public, c'est de dire que Manet, c'est le paradoxe tragique de son existence, touche au succès. En cette fin des années 70, donc 3 ans avant qu'il ne disparaisse.
Voilà, la peinture est une affaire d'intelligence. On la voit chez Manet, c'est évidemment de l'incontournable, indispensable et brillant Pablo Picasso, qui dit tout de cette peinture et dont on pourrait peut-être dire à peu près la même chose pour la littérature et ses œuvres littéraires de Théophile Gautier.